Et avec Par ici les sorties, Laurie Choleva, Sébastien Bordenave, Stéphanie Loire, bonjour.
Bonjour.
Laurie, on va commencer avec une actualité très chargée. On démarre avec un film incontournable qui va représenter la France aux Oscars. Rien que ça.
Oui, exactement. C'est Saint-Omer. C'est l'un des films les plus percutants de l'année. C'est le premier long métrage d'Alice Diop, grand prix à la dernière Mostra de Venise, prix du meilleur premier film. Et effectivement, film qui va représenter la France aux Oscars. Alors, Saint-Omer s'inspire du procès de Fabienne Cabou, une mère sénégalaise qui avait tué son bébé en l'abandonnant sur une plage du Pas-de-Calais. C'était en novembre 2013.
Vous êtes accusée du meurtre de votre fille Élise, âgée de 15 mois. Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille ?
Je ne le sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Je me suis comportée comme si je n'étais pas enceinte.
Alors Alice Diop, la réalisatrice, livre à partir de ce fait divers un film radical, un film puissant. À la fois, c'est une œuvre de fiction, les noms sont changés, mais les dialogues en cour d'assises et les plaidoiries sont mot pour mot ce qu'il s'est vraiment dit lors du procès de Fabienne Cabou. On est tour à tour bouleversé, sidéré, malmené pendant ce film qui est vraiment pour moi une œuvre majeure sur ce que c'est qu'être une femme, qu'être une mère, qu'être une fille. Cette histoire d'infanticide qui pose la question existentielle. Qu'est-ce qu'être une mère ? C'est un film de procès qui nous plonge dans la peau des jurés. On ne sait jamais quoi penser et c'est remarquable.
Une question à laquelle on ne réussira jamais à répondre,
jamais.
Je pense, Laurie. On va continuer sur cette thématique de la famille.
Oui, avec une fin plus heureuse, heureusement. C'est la sortie cette semaine du film Les Miens de Roche Dizem, inspiré de sa propre famille et de son expérience avec l'un de ses frères qui, suite à une commotion cérébrale, s'est mis à dire de façon désagréable tout ce qu'il pensait aux membres de sa famille, sans aucun filtre.
Ah ouais, c'est problématique.
C'est problématique. Et parfois, ça peut être vraiment violent. Alors Rojdi a décidé d'en faire un film assez drôle, mais surtout très tendre, et de rendre hommage à sa propre famille. D'ailleurs, il tourne en famille, puisqu'il dirige pour la première fois sa fille. Écoutez-le nous en parler.
C'était assez étrange parce qu'en plus, elle a commencé, la pauvre, le premier jour de tournage, par une scène d'hystérie violente et de cris. Et puis, elle a fini par me dire, mais papa, tu sais, je n'ai jamais crié de ma vie. Et moi-même, j'ai réalisé sur le plateau que j'avais effectivement jamais entendu ma fille crier. Donc, ça m'a permis de la découvrir aussi.
Et pourtant, on crie en famille. Enfin, je ne sais pas chez vous, hein, mais chez moi, ça peut être violent.
C'est animé. Et les repas de Noël le seront peut-être également. Sébastien, alors vous prenez un petit chemin de travers ce matin. Pas vraiment une BD, mais un livre d'entretien entre Christophe Onodibio, qui est journaliste et écrivain, et évidemment Enki Bilal, le dessinateur culte que vous
transmettez. Oui, le titre de l'ouvrage, eh ben, c'est un oxymore. Vous savez, un oxymore, c'est deux mots qui se suivent, mais qui sont contradictoires, comme par exemple Stéphanie Loire et Monastère, voilà, c'est pour que tout le monde comprenne. Le titre du livre, c'est Sublime Chaos, oxymore. C'est publié chez Casterman, et il y a beaucoup de dessins de Enki Bilal avec des conversations qu'il a eues avec Christophe Onodibio il y a plus de 10 ans, et aussi il y a moins d'un an. Ça donne un voyage dans le temps assez intéressant, aéré par des dessins de Bilal, des fresques épiques, ainsi que ces fameux portraits de femmes aux cheveux bleus et au teint de porcelaine. Le point commun de toutes ces œuvres, c'est leur style qui évoque un futur dystopique dans un malaise esthétique. Dans ce livre, on parcourt la vie de Bilal, né dans le Belgrade de l'ex-Yougoslavie. Il raconte comment en France, eh ben, il rencontre Goscinny à 15 ans pour lui proposer ses dessins à publier dans Pilote. Goscinny, il est impressionné, il dit « Tu dessines super bien pour ton âge, mais passe ton bac d'abord. » Bon, bah, c'est ce qu'il va y faire. Et 5 ans plus tard, eh ben, il gagne un concours, toujours pour Pilote. Il est publié, l'aventure commence. Ce qui est saisissant dans l'œuvre de Bilal, et c'est ce qui est rappelé dans ce livre, c'est que l'artiste est un visionnaire. En 1983, il sort un album BD appelé Partie de chasse, où il annonce l'explosion du bloc soviétique avant que cela n'arrive. En 98, il imagine une multinationale religieuse terroriste avant Al-Qaïda. Et quand il fait son premier film censé se passé en 2095, eh ben il gomme à la palette graphique les deux tours du World Trade Center 6 mois avant les attentats. En imaginant le pire, il dessine l'avenir. Dans une boutade, il dit s'interdire de dessiner un scénario avec une troisième guerre mondiale, on sait jamais. Merci Enki Bilal. Enki Bilal, Sublime Chaos. Il y a plein d'anecdotes incroyables sur cet artiste inclassable avec des dessins sublimement inquiétants. Et j'en profite aussi pour vous dire, Néné, que vient de sortir la revue BD culte pour tous ceux qui aiment vraiment la BD avec un grand B, Métal Hurlant.
Oula,
c'est le numéro 5 avec en couverture, eh ben, qui Enki Bilal, justement. Ça parle de futur, c'est un spécial métavers, 270 pages d'évasion, un numéro particulièrement réussi.
Merci Sébastien, ça donne envie, le dessin est absolument magnifique.
Ah, mais c'est un génie. Les femmes d'Enki Bilal, elles sont magnifiques.
Alors du culte avec vous aussi Stéphanie, évidemment du culte et du folk.
Du culte folk, c'est pas facile à prononcer.
Ça va.
Un exercice de prononciation à la maison. allez-y. Celui qu'on surnomme le Loner a aujourd'hui 77 ans. Vous savez qui est le Loner?
Bah oui,
c'est Neil Young qui sort son 42e album studio. C'est beaucoup, 42 albums. Un album qui s'appelle cette fois World Record. Au cœur des thèmes abordés par l'artiste, la nature, sa gratitude envers la Terre, l'état du monde, l'avenir incertain. Des thèmes que le musicien défend depuis toujours et qui sont éminemment actuel. Le titre qui ouvre l'album, c'est une balade avec des chœurs accompagnés au piano, un peu dans l'esprit de son immense tube Harvest Moon, dont Lena Eglemonier est absolument fan.
J'adore, je suis une fan absolue.
Écoutez, c'est Love Earth. Lover, and your love comes back to you. Lover, such an easy thing to do. Lover, till the water in the air. Moi, ça me donne envie d'enfiler les sentiers directement à chaque fois. Partir. World Record, c'est une véritable pépite dans cet album. Il est toujours entouré de sa bande de musiciens du Crazy Horse, Neil Young. Et cette fois, à ses côtés, il y a un nouvel élément. C'est le producteur Rick Rubin qui a supervisé la production de cet album depuis ses studios Shangri-La à Malibu. Et Rick Rubin, si ça ne vous dit rien, c'est ce prod génial qui a eu un rôle majeur dans la musique parce que c'est celui qui a fait la fusion rap-hard rock et en réunissant Run DMC et Aerosmith pour la chanson Walk This Way. Parmi les bijoux qui composent ce disque de Neil Young, une balade entre guitare acoustique et harmonica, Walking on the Road to the Future. Walking with me now to the future of all mankind. One step right in front of the other. Walking to the future. On serait pas un petit épi de maïs au barbecue.
On les aime, nos vieux folkeurs. Hein.
Petit feu de cheminée.
Alors, Charlotte Rampling, pas folkeuse non plus, elle, mais qui sort un album, ça c'est étonnant.
Elle sort un album, Charlotte Rampling.
Le cinéma rejoint la musique.
Exactement, nos deux terrains, Laurie, un album intitulé De l'amour, mais quelle drôle d'idée. Enfin, oui, quelle drôle d'idée.
Ça c'est sûr.
L'actrice Charlotte Rampling, elle vient de sortir cet album qui fait résonner sa voix avec ce timbre si unique, si particulier, cette pointe d'accent britannique à la fois distinguée et
chic.
Incroyablement sensuelle. Elle signe un album très élégant, comme elle, dans lequel elle parle plus qu'elle ne chante. Elle incarne des textes qu'elle joue, telle une actrice. Il est question de rapports amoureux. On se laisse embarquer volontiers dans cette promenade, notamment à bord du titre Via Condotti, en duo avec Léonard Lasserie, qui réalise ce disque.
Sur la Via Condotti, un petit reste de nuit. Le jour lèche les vitrines. Le matin sort de son spleen.
Là, on se fait une petite balade en Vespa.
Un petit tea time avec quelques scones.
Ça sonne un peu comme du Gainsbourg.
Un peu, c'est très joli. Merci Stéphanie, on vous retrouve évidemment tout à l'heure à 16h dans Musique et évidemment vous tous en podcast. Merci à vous.